bien, on va pouvoir commencer, je pense. On a dépassé le quart d'heure poitevin. Cette conférence se fait dans le cadre de l'exposition Habitat Énergie, hein, que vous pouvez voir donc là-haut au premier étage, c'est ça. Et donc un partenariat entre la CAPEB et l'espace Manes France. Ce soir, le thème, c'est l'efficacité énergétique, mais vu du côté donc, des métiers et leur évolution. Alors, je vais faire une petite introduction. Ensuite, donc, il va y avoir trois structures de formation qui vont intervenir. Et ensuite, donc, il y aura la possibilité donc, des questions dans la salle. Alors, d'abord, je me présente. Je suis Jean-Claude Lisée, secrétaire général de la CAPEB. La CAPEB représente l'artisanat du bâtiment, les petites entreprises du bâtiment. Et je suis accompagné donc, de mon président de structure donc, CAPEB, Jean-Jacques Dussoul, qui est ici présent, et dont le métier est électricien. Donc il est président de la CAPEB Poitou-Charentes et en même temps il est président de la CAPEB de la Vienne. La CAPEB, c'est, si vous voulez, un syndicat, en fait, un syndicat d'artisans donc, qui existe dans chacun des départements. Sur le Poitou-Charentes, il y a 3800 adhérents sur les 10 000 entreprises qu'il y a. Donc c'est un fort taux d'adhésion dans notre syndicat. Ce que nous menons comme opération, comme action, bien sûr, c'est la défense des intérêts des entreprises de l'artisanat du bâtiment, mais également donc, des actions économiques et puis aussi nous initions des actions de formation dont on va peut-être beaucoup parler ce soir. Alors, en ce qui concerne l'évolution des métiers qu'on va vous présenter, nous, on considère à la CAPEB qu'il n'y a pas de nouveaux métiers par rapport aux économies d'énergie. Il y a simplement des métiers qui évoluent. Et bien, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a intérêt à bien former sur les métiers de base. Donc les interlocuteurs de ce soir vous en parleront tout à l'heure. Et on a bien conscience que, en revanche, on doit aller vers des compétences nouvelles qui sont apportées par les économies d'énergie. Et tout ça aussi, ben, vous le connaissez, c'est lié un peu aux enjeux, donc aux enjeux qui ont été dictés par le Grenelle de l'environnement. Alors, pour nous, favoriser les économies d'énergie, donc c'est une des missions, effectivement, des artisans, des entreprises du bâtiment. Pour nous, ça concerne tous les métiers. Et d'ailleurs, alors, je n'ai pas pu le projeter, mais dans le document que vous avez tous entre les mains, vous voyez qu'il y a un panel des travaux donc, qui existent pour chacun des métiers du bâtiment, que ce soit l'électricien, le maçon et y compris le peintre, puisque donc là, je pense que tous, vous avez le regardé, hein, vous avez sur ce document donc les activités en relation avec les économies d'énergie et ce que ça procure finalement à l'habitat, sachant que vous avez au milieu les déperditions des thermiques. Donc bien sûr, c'est pour lutter contre les déperditions thermiques. Alors, nous menons, bien sûr, puisque ça concerne tous les métiers, forcément des formations donc à la CAPEB hein, pour nos adhérents, pour les non-adhérents hein, d'ailleurs aussi. Donc nous menons des formations depuis très longtemps, par exemple sur le chauffe-eau solaire. Ça fait vraiment quelques années que nous formons les artisans à l'installation de chauffe-eau solaire. On peut dire que depuis maintenant 2 ans, ça prend un rythme beaucoup plus rapide. On a un développement considérable donc actuellement des entreprises dans ce domaine. Et puis, puisque c'est la demande des clients sur la lisibilité, on pourrait dire, des compétences des artisans, eh bien, on est en train de développer un label qui sera vraiment déployé à la fin de l'année 2009. Mais là, nous sommes déjà en train de le préparer et ça s'appelle le label éco-artisan. Alors, par rapport à ces métiers donc, qui évoluent, dont vous connaissez un peu les activités, vous en avez entendu parler. Ce soir, on voudrait les présenter du côté de la préparation des gens, à ces métiers, à travers donc des structures de formation. Et ce soir, on a trois types de structures de formation qui représentent en fait hein, quasiment l'ensemble de ce qu'on peut trouver sur le territoire pour préparer les jeunes à l'exercice de ces métiers. Et donc, il y a des représentants de lycées de professionnels. Donc Gérald Régis qui est enseignant et Monsieur Audebert qui est proviseur donc du lycée Auguste Perret. Il y a le CFA Changzhou à Saint-Benoît, qui est représenté par François Ripaud, son directeur. Et enfin, il y a donc l'AFPA, qui est représenté par M. Benguesmia Kamel Benguesmia, qui est responsable à l'AFPA des relations avec les entreprises, on va dire. Hein? Et puis Philippe Germont, donc, qui est responsable de formation. Alors, si vous voulez bien, on va les laisser faire leur intervention donc sur les modalités d'enseignement qu'ils pratiquent, les métiers auxquels ils préparent dans leur structure, et puis également, surtout, développer aussi en quoi il y a une évolution dans la formation par rapport à ces enjeux d'économie d'énergie dans leur structure de formation. Alors, bah, dans l'ordre que je viens d'indiquer, je vais demander d'abord donc, au lycée professionnel, donc, d'intervenir. Est-ce que vous voulez vous asseoir ou...
Donc, Dominique, je ne sais pas si on m'entend. Oui, je vais mettre la qualité d'enregistrement. D'accord. Dominique Audebert, donc proviseur du lycée Auguste Perret, chef d'établissement support du Greta Vienne, responsable d'un organisme de formation, d'un lycée et au-delà de formation tout au long de la vie. C'est-à-dire de formation initiale, de formation continue et d'apprentissage. Alors vous avez l'ensemble des formations ce qui concerne la formation initiale. Ce sont des formations qui partent du CAP et qui vont jusqu'au bac pro. Alors tout à l'heure, mon collègue enseignant vous présentera quelles sont les incidences efficacité énergétique dans les formations. Et pour la formation d'adultes, nous avons, en plus de ces formations, nous avons le CAP éco-construction avec construction bois, pardon, avec le CAP donc électricité, le CAP plombier, et puis d'autres formations de dessinateurs, entre autres. Et dans deux de ces formations, nous avons une option éco-construction en électricité et en chauffage. Donc ce sont deux options, mais vous verrez tout à l'heure, qui sont intégrées dans la formation. Ensuite, sur la formation continue, toujours avant de passer la parole à mon collègue, vous avez des réalisations de maquettes, qui sont utilisées par les stagiaires en formation continue. Et ce sont les enseignants qui sont appelés à la réalisation de ces produits. Maintenant, je passe la parole à Gérald Régis.
Alors, je vais vous parler, on nous a demandé de parler des modalités d'enseignement. Notre objectif... c'est de former des professionnels, comme l'a dit Jean-Claude Lisée, et c'est pas de former des professionnels à l'efficacité énergétique, parce que ça, on n'a pas de formation spécifique là-dessus. Hein. Ce qu'on fait, c'est qu'on forme des professionnels, des maçons, des plombiers, des peintres, des menuisiers, des menuisiers métal à l'uvert, etc., et qui doivent connaître les réglementations et qui doivent pouvoir s'adapter aux évolutions futures. Alors, je vais prendre l'exemple, par exemple, de cette photo infrarouge là, qui va montrer cette fois-ci l'inefficacité énergétique. On voit par exemple les parties les plus rouges sont les parties qui ont le plus de déperdition. Eh bien, pour trouver des solutions dans nos formations en menuiserie, menuiserie aluminium, menuiserie bois, eh bien, il y a des solutions. Bon, il y a eu le simple vitrage. Après, les menuisiers se sont mis au double vitrage. Maintenant, c'est le double vitrage faible émissivité sous argon. On entend parler du triple vitrage dans des pays limitrophes à la France, et un petit peu ici. Donc ça fait partie de la formation de nos jeunes. Mais avant tout, il faut que ce soit des menuisiers qui s'adaptent à la technique de l'époque. Dans la fenêtre en haut, elle est en jaune, donc elle perd moins, mais on voit en haut une trace rouge. Ça, ce sont des problèmes de perméabilité à l'air. Alors, qui est un problème qu'on commence à développer en France parce que, effectivement, si on isole bien toutes les parois et qu'on laisse un espace, toute la chaleur va passer par là. Il y a certains labels étrangers qui font des tests à la perméabilité pour vérifier vraiment l'étanchéité. Donc, encore une fois, un travail de menuisier. La trace rouge horizontale et jaune, là, ce sont des ponts thermiques dus au plancher, dus au mur de refend pour les traces jaunes verticales. Eh bien, encore une fois, pour améliorer l'efficacité énergétique, il y a des solutions. Bon, les maçons vont travailler sur le monomur. La maison au milieu, là, c'est du monomur. Ou éventuellement les menuisiers charpentiers sur des constructions en sature bois. Donc ce sont aussi des choses que l'on développe et qui se développent beaucoup sur les chantiers. Et l'autre chose importante, et peut-être la première par laquelle j'aurais dû commencer, c'est l'isolation. À droite, vous avez une maison qui est isolée par l'extérieur, par exemple. Voilà. Donc en fait, l'efficacité énergétique, ça fait partie de toutes les professions. Et avant tout, comme l'a dit Jean-Claude Lisée, il faut que ce soit de bons professionnels et ils s'adapteront. Alors une chose importante aussi, c'est que les formations que l'on a, CAP, BEP, brevet de technicien, ce ne sont pas des concepteurs. Les concepteurs, ça va être les maîtres d'œuvre, les architectes, les bureaux d'études, mais nous, nos élèves, ce sont des gens qui réalisent, qui seront ouvriers ou techniciens. On se base pour nos formations sur des référentiels qui sont des programmes de formation. Alors, dans ces programmes, il y a des compétences, c'est-à-dire qu'un maçon doit savoir monter des parpaings, monter des briques, etc. Un plombier doit savoir souder des canalisations, parce que si on veut monter un chauffe-eau solaire, une pompe à chaleur, une chaudière à granulés, qu'on ne sait pas souder le fer, souder le cuivre, ça va poser problème. Donc, avant tout, il faut des professionnels. Mais dans les savoirs associés, alors c'est un peu compliqué sur nos jargons d'enseignants, il y a des choses qui doivent être abordées au niveau de la notion ou au niveau plus approfondi. J'ai pris l'exemple de deux formations, le BEP dessin et le bac pro chauffage, où on doit aborder le confort technique, l'aspect architectural. Alors ça fait plutôt référence à l'enveloppe du bâtiment, qui est très important. Mais encore une fois, ils n'ont pas à concevoir, ils ont à connaître les principes, mais ils ne font pas de conception, ils font de la lecture. Après l'enveloppe, il y a la constitution de cette enveloppe, des parois. Donc là, il faut connaître évidemment les matériaux, mais aussi leur pouvoir isolant, les résistances thermiques. Et il y a, pour tout le monde, la connaissance des isolants et leur destination. Est-ce que cet isolant doit être placé en mur, en plancher, etc. Donc tout ça, c'est lié à l'efficacité énergétique et ça fait partie de la formation classique du bâtiment. Pour le BEP dessinateur qui date de 2002, ça va plus loin au niveau des calculs. Il faut être capable de calculer les déperditions d'une paroi. Et pour les équipements, il est noté VMC. Alors si j'ai marqué ça, c'est parce que les référentiels aussi évoluent. Celui du bac pro est de 2006 et les référentiels récents, évidemment, contiennent plus de choses marquées que les autres. Au niveau de la VMC, par exemple, vous voyez, autoréglable, double flux, etc. Bon, donc je ne vais pas trop détailler, mais dans le bac pro chauffage est entré tout ce qui est énergie renouvelable, chauffe-eau solaire, etc., pompe à chaleur, notion d'électricité photovoltaïque. Donc on voit que les programmes s'actualisent avec les époques où ils sortent. Mais quand même, sur les anciens référentiels, on doit s'adapter aux techniques de l'époque. Hein. Même si ce n'est pas marqué, on se doit de faire travailler les élèves sur des dossiers actuels. Donc maintenant, deux aspects, l'aspect cours et l'aspect travail qui se passe dans l'établissement au niveau global. Alors au niveau cours, si on veut être efficace, eh bien, la première des choses est de consommer peu d'énergie, puisque c'est la première des économies. Pour ça, on se base sur des dossiers de construction et on commence à trouver des dossiers intéressants. D'abord, on doit utiliser des dossiers avec la réglementation en vigueur, entre autres au niveau thermique, c'est la RT 2005. Mais quand on trouve des dossiers qui ont de l'avance sur les réglementations futures, ça prépare encore plus nos élèves à leur activité future. Alors, j'ai pris cet exemple-là, certains connaissent certainement, la presse en a beaucoup parlé. Ce sont des logements à mini-osance de la CIPA qui consomment seulement 45 kWh par mètre carré par an, ce qui est beaucoup moins que la réglementation actuelle. La réglementation actuelle, c'est au moins deux fois plus. Donc, travailler sur des projets comme ça, c'est préparer les jeunes aussi à leur vie professionnelle future. Alors bon, au niveau de la technique, bon, compacité, exposition plein sud pour profiter du soleil comme chaudière, très bonne isolation, chauffe-eau solaire, puits canadien dans ce projet-là. Alors deux exemples rapidement de projets qu'on commence à trouver. Sur la gauche, un architecte des Deux-Sèvres qui fait du bioclimatique passif, c'est-à-dire des maisons économes, et donc, comme on le voit sur la coupe du bas, il n'oublie pas de mentionner les rayonnements d'été et d'hiver, parce qu'il y a le problème du confort d'hiver, mais avec des maisons tellement bien isolées maintenant, il faut bien que nos jeunes soient formés aussi au problème du confort d'été, qui peut se résoudre avec des architectures, des avancées de toit, et la climatisation n'est pas obligatoire. Avec des architectures, en travaillant sur l'enveloppe, on peut faire des maisons économes. Je terminerai au niveau des exemples qu'on commence à voir avec lesquels on peut travailler avec nos élèves. C'est le lycée Kyoto, alors qui est à Poitiers, qui est intéressant car l'architecte, par exemple, sur ce document a bien séparé l'enveloppe avec les solutions architecturales, isolation renforcée, compacité, forte inertie thermique, et la partie plus technique, tous les équipements qu'il peut y avoir. Alors justement, comme dans le bac pro chauffage, il faut aborder la cogénération. Bien là, il va y en avoir une avec de l'huile végétale, etc. Donc voilà, au niveau de la formation, utiliser des projets. Alors on commence à en avoir et on développe ça dans nos formations, même s'il faut avant tout faire des professionnels qui connaissent les bases des métiers. Alors pour terminer sur les outils, on peut trouver aussi des outils pour aider à la formation. C'est par exemple cette animation du Centre scientifique et technique du bâtiment qui fait référence, qui s'intitule « Vers des bâtiments à énergie positive », et donc qui permet de faire varier les épaisseurs d'isolant du toit, du mur, des murs, qui permet de mettre des fenêtres à simple vitrage, double vitrage, triple vitrage, des chauffages anciens, récents ou à condensation. Et au niveau des ventilations, pas de ventilation, simple flux ou double flux avec puits canadiens. Et en énergie solaire, soit chauffe-eau solaire, soit cellule photovoltaïque. Enfin, c'est un outil qui est très intéressant parce que bon, vous connaissez certainement la classification des logements. Bien, ça permet de montrer rapidement en simulation qu'une maison qui n'est pas du tout isolée peut consommer 400 kWh par mètre carré par an. Quand on commence à l'isoler, on passe à 200, on arrive à 100-120, qui est la réglementation actuelle RT 2005. Et on peut arriver à 50, qui était le cas du projet que je vous ai montré avant, là, de la CIPEA. Et on peut même aller jusqu'au bâtiment énergie positive en mettant des cellules photovoltaïques, etc. Donc je pense que cette animation permet de voir un peu l'évolution des constructions et d'où on vient et où on va. Et pour nos jeunes, c'est une très bonne simulation. Le CSTB nous l'a remis. Quand je la montre, en général, on me la demande. Si vous la voulez, je peux vous la donner aussi, hein, parce que c'est un outil intéressant. Donc maintenant, par rapport à ce qui se passe en dehors des cours dans l'établissement, alors on a plusieurs axes. On a le projet d'établissement dans lequel est intégrée l'éducation à l'environnement et au développement durable. Bon, je n'en dirai pas plus parce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît mieux que moi, donc je n'en dirai rien. Christian Grossagne est là. Mais c'est aussi dans ce cadre que, par exemple, la maquette solaire, qui est une idée qui vient de Grenoble, de Terre Vivante pour ceux qui connaissent à Grenoble, enfin ça doit exister ailleurs, elle a été réalisée l'an dernier, puis d'ailleurs elle est dans l'exposition ici. Ça permet de simuler le soleil d'été et d'hiver, ce qui est important de visualiser pour nos jeunes. Ça permet de visualiser qu'on peut se protéger du soleil en été avec des avancées de toit ou des techniques ou des pare-soleil, des choses comme ça. Autre chose aussi qui a été réalisée, ce sont des maquettes qui sont aussi ici, maquettes de murs à ossature bois, d'isolation par exemple, tout ça a été fait aussi dans le cadre de l'EDD. Dernière chose, la région a incité à la création de centres information énergie et éco-construction dans tous les lycées professionnels et centres de formation en bâtiment de la région. Alors on a eu quelques moyens qui nous ont permis de réaliser entre autres des conférences avec des professionnels, des visites aussi, des expositions, voilà. Donc dans le cadre du CDI, on a un certain nombre de documents. Alors, Il est important en formation d'aller voir sur le terrain, parce que rester dans un lycée pour former des jeunes, ce n'est pas suffisant. Il faut aller voir. Et il y a des choses intéressantes comme la route du bois au CPE du seuil du Poitou, hein, où il y a eu pendant 2 ans des expositions de matériel bois, granulés, plaquettes, etc. Et pour les sections chauffage, c'était vraiment très intéressant. Des maisons aussi, que ce soit des maisons avec cellules photovoltaïques, monomures, ossature bois. Donc les visites aussi, c'est un axe qu'on essaie de développer. Et parce que j'ai été trop long, je terminerai par un clin d'œil. Dans notre établissement, on a une section corde. Alors si jamais il y a des capteurs en hauteur, des vitres à nettoyer pour améliorer l'ensoleillement, ben voilà. Donc.
Merci. Maintenant, on va passer au CFA. Donc, François, si tu veux bien prendre le micro. Je crois que si vous préférez, le micro se détache aussi.
Bonsoir. Donc François Ripaud, directeur du CFA du bâtiment dans la Vienne. Monsieur Gérald a expliqué déjà pas mal de choses. Donc je ne vais pas redire ce qui a été dit, l'importance de l'éco-habitat, du développement durable. Je pense qu'on est maintenant, c'est parti, on n'arrêtera pas une machine qui se met en route comme ça. Hein. Il faut savoir que maintenant, si vous voulez construire, vous passerez automatiquement par le développement durable, par de l'éco-construction, etc. Donc moi, je reviendrai sur un petit peu la façon de fonctionner d'un centre de formation d'apprentis, parce que peut-être que vous ne le connaissez pas forcément. Ce qui va nous différencier d'un lycée professionnel... Déjà présenté un petit peu brièvement l'établissement. Donc, depuis 10 ans, on voit une hausse de nos effectifs, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes qui viennent vers une formation dans le bâtiment. Ça, c'est très intéressant, puisqu'il y a 15 ans, il y a 18 ans, lorsque j'ai pris mon poste, il y avait à peine 600 apprentis. Aujourd'hui, il y en a 961. Donc, le bâtiment attire. Pourquoi ? Parce que le bâtiment, il y a de l'emploi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aussi le bâtiment a progressé dans la façon d'être de ceux qui travaillent dans le bâtiment et également les progrès techniques faits par nos professions, ce qui a amené des jeunes, ce qui a amené aussi des nouvelles entreprises. Et puis aussi, on a toujours besoin d'un toit, donc il faut bien construire. Aujourd'hui, ce qui se passe... La grande différence, c'est que on nous demande de construire autrement. Pourquoi ? Parce que l'énergie, ça a un certain coût. On pense à la planète, on pense à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, et on souhaiterait que la planète, elle soit conservée de la meilleure façon possible. Donc on évolue et nous, au niveau du CFA, on a dû évoluer. On a dû évoluer pour plusieurs choses. Déjà parce que le CFA, donc, qui se situe rue de Chantegeau à Saint-Benoît, à côté du lycée de Bois d'Amour, le CFA est géré par la profession, c'est-à-dire que ce sont des professionnels qui gèrent le CFA. Le CFA, c'est un conseil d'administration de 12 personnes avec 12 employeurs et 12 membres salariés. Donc nous sommes gérés par la profession. Un centre, quand il est géré par la profession, il faut savoir que les professionnels vont nous dire « Écoutez, nous, on veut bien que vous formiez des jeunes, mais nous, sur le terrain, on voit l'évolution. Il faut que vous évoluiez en même temps que la réalité des choses. » Donc la profession va nous fixer des objectifs en termes de développement. Et ces objectifs, comme le disait M. Gérard, si on attend, nous, de chez nous, qu'un référentiel de formation change, c'est-à-dire un CAP, un bac pro, on change le contenu de ces formations, on attendra un certain temps. Pour changer un référentiel, c'est 7 ans. Aujourd'hui, il ne nous faut pas 7 ans pour changer. Le changement, c'est maintenant. Donc les professionnels nous ont obligés à changer. Alors comment on a pu faire évoluer les choses ? Ben, je dirais déjà par le recrutement et l'organisation des personnes. Par des personnes, notamment, nous avons recruté quelqu'un qui développe les relations entre l'entreprise et le centre de formation et les familles. Pourquoi la nécessité de l'entreprise ? Ben, c'est pour voir ce qui se fait sur le terrain, concrètement. Qu'est-ce qu'on y fait ? Des familles et des futurs candidats à la formation, bien c'est pour leur expliquer, pour répondre aux interrogations, pour voir comment nous fonctionnons. Donc première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous avons dû aussi professionnaliser nos formateurs. On ne pouvait plus continuer à fonctionner comme on fonctionnait habituellement. Donc nous avons développé des pôles. Première chose, je vous présentais brièvement les pôles parce que vous voyez là, vous avez pour chacun des pôles des spécialistes au niveau professionnel, donc tous nos formateurs professionnels, mais également tous nos formateurs en enseignement général sont spécialisés dans un pôle. Donc lorsqu'on parle de la maçonnerie par exemple, au-delà du CAP, du brevet professionnel, du bac, c'est pas ce qui nous intéresse ce soir. C'est de voir comment on va fonctionner. Bien, c'est-à-dire que toutes ces personnes autour d'un projet commun vont travailler sur l'éco-bâtiment, sur le développement durable, sur l'offre globale aussi en termes de bâtiment. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'un maçon, demain, il ne va plus travailler tout seul. Ça sera impossible. Il sera obligé de travailler avec l'ensemble des corps d'État. On a vu, dans une habitation, ça sort un petit peu de partout, au niveau énergie. Donc on va devoir travailler autrement. C'est pas simple. Croyez-moi, c'est pas simple, parce que c'est pas dans les habitudes des personnes qui travaillent dans le bâtiment. Lorsque vous avez des marcheurs qui viennent chez vous pour vous vendre un chauffage, il vendra son produit. Il va pas s'occuper si vous n'avez pas de double vitrage, si vous avez un manque d'isolation, etc. Lui, il va vendre son produit. Et aujourd'hui, c'est pas ça. Et j'espère que le consommateur averti va demander autre chose. Donc on prépare, nous les jeunes, déjà à cette offre globale de prestations. Pour ça, il faut envoyer aussi l'ensemble de nos formateurs en formation, parce que c'est nouveau. Donc c'est un investissement sur le personnel pour pouvoir proposer ce type de prestations. Et on forme tout le personnel, que ce soit le personnel technique, formateurs donc d'ateliers, que les formateurs en enseignement général et en dessin, bien entendu. Donc si je reviens sur la maçonnerie, eh bien on va travailler effectivement tout ce qui est monomure, on va travailler également tous les enduits, mais la formation ne se fait pas simplement au CFA. La formation, c'est simplement une semaine par mois où les jeunes sont au CFA. Sinon, le reste du mois, ils sont en entreprise. Donc, on ne peut pas dire au CFA qu'on va former au métier. Je vais prendre un exemple tout simple pour vous expliquer ça. Je vais prendre le CAP de maçonnerie. Déjà, dans le bâtiment, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui nous avons des formations à tous les niveaux. Là, je vous présente le CAP, mais après le CAP, il y a un brevet professionnel, il y a un baccalauréat professionnel, il y a un BTS, il y a une licence professionnelle, il y a une filière aussi ingénieur qui existe. Et tout ça par la formation, qu'elle se fasse à temps plein ou en alternance. Dans tous les métiers du bâtiment, on peut atteindre une fonction d'ingénieur par ces filières-là. Donc si je prends le CAP, vous voyez qu'en apprentissage, les jeunes, en fait, sur une année de formation, ils sont 34 semaines en entreprise, ce qui veut dire que l'entreprise va former au métier pour 1190 heures. Et au CFA, les jeunes vont être là 13 semaines par an, donc 130 heures pour une formation pratique, puisque vous voyez, la formation, ce n'est pas simplement une formation professionnelle, c'est également une formation générale au niveau du CFA, ce qui veut dire qu'en 190 heures, en 130 heures, on n'a certainement pas la prétention de former techniquement un jeune. Le rôle du CFA, ça va être d'amener la complémentarité de formation de l'entreprise. Et là, on est bien obligé de coller à la réalité de l'entreprise. Et c'est tout le challenge qu'on doit aujourd'hui relever. C'est-à-dire que la réalité de l'entreprise et des travaux que faisait une entreprise il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, vous allez voir un chauffagiste qui va vous dire « Moi, le fuel, c'est 1 sur 10. Par contre, pompe à chaleur, c'est 9 sur 10. » Celui qui fait uniquement du fuel aujourd'hui... Donc, on est obligé de se mettre, nous, à la pompe à chaleur. Un exemple. Donc, on est obligé de coller à la réalité. Hein. Donc ça, c'était concernant le gros œuvre. Le bois, la couverture, ben, c'est pareil. Hein. Donc on a également diverses formations, que ce soit en charpente, en ossature bois, bien entendu. Ben oui, l'ossature bois, la maison ossature bois, ben, c'est un marché nouveau. La formation, elle existe. Le référentiel CAP existe depuis 3 ans. Il n'y a que 3 ans qu'on a fait ce diplôme. Donc ça démarre, bien il faut insister parce qu'on s'aperçoit que ça se développe et que ce soit en isolation ou en construction directe bois, bien, c'est quelque chose sur lequel on doit insister. Donc s'il y a des métiers peut-être qui sont en voie de développement, bien, l'ossature bois est certainement un de ces métiers-là. On va travailler également en couverture zingrie. Pour être honnête, on n'en est pas, nous, encore aux tuiles photovoltaïques, hein, certainement pas, pas encore. Peut-être qu'on y viendra, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va plus travailler sur l'isolation, sur le fait déjà de mettre en œuvre correctement une toiture, parce que ce n'est pas évident. Et puis après, on verra. On va évoluer, bien entendu, mais pour l'instant, la profession ne nous a pas encore demandé d'aller sur ce terrain-là. Sur le pôle météo-énergie, eh bien c'est là où on va avoir le plus, je dirais, de travail aujourd'hui. Hein. Et puis je remercie d'ailleurs Gogiton d'être présent, hein, qui est formateur chez nous et qui est aussi en formation actuellement, puisque tout ce qui est offre globale, tout ce qui est analyse, etc., bien, il faut être formé pour pouvoir former les futurs professionnels. Ça, c'est un travail au quotidien que nous faisons. Et on souhaite développer à partir de janvier, donc c'est demain, hein, à partir de janvier, quelques modules de formation complémentaires, soit liés à la pompe à chaleur, soit liés à la ventilation, peut-être les deux. Hein. Donc aujourd'hui, on est en phase non plus de recherche de partenaires, puisqu'on a trouvé les partenaires, mais on est en phase de mettre en place une formation réellement adaptée. Mais une formation réellement adaptée, pas simplement dans la théorie, dans le modèle, adaptée dans la mise en œuvre, c'est-à-dire capable de former des apprentis, mais capable également de former eh bien, des entreprises qui veulent aller rechercher de nouveaux marchés. L'objectif, c'est ça, hein, c'est... au sein de nos formations, de pouvoir accueillir à la fois des apprentis, mais à la fois des personnes, des salariés qui ont besoin de perfectionnement professionnel, mais également, pourquoi pas, des demandeurs d'emploi qui souhaitent aussi développer quelques compétences liées au marché. Et enfin, j'en terminerai par le pôle finition, carrelage, plâtrerie, parce que on peut se dire, bah oui, mais en peinture, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, en peinture, aujourd'hui, on a des systèmes d'échange liés aux couleurs qui nous permettent de gagner en énergie. En plâtrerie, bah, l'isolation, il faut bien la travailler quelque part, hein, donc on a des nouveaux produits. J'étais avec les responsables de Bouillet-le-Roux et au niveau des briques, bien, ça pose des problèmes, briques de construction, etc. Ben, les chercheurs de Bouillet-le-Roux y travaillent aujourd'hui parce que tout n'est pas résolu. On parlait de pont thermique tout à l'heure. Ils travaillent encore dessus aujourd'hui parce que ce n'est pas résolu. Hein. C'est en train de se résoudre. Donc on suit cette évolution-là. On travaille de très près avec les fabricants, avec les professionnels, pour pouvoir former correctement bah, toute personne qui souhaite se former dans le bâtiment par la voie de l'alternance. Quoi dire de plus sur l'organisation de la formation? Oui, quand même, des choses quand même à dire. C'est-à-dire que faire une formation, c'est bien, mais se préparer à rentrer en formation, c'est bien aussi. Donc, ce qu'on va proposer, c'est déjà avant tout, c'est de positionner chaque personne qui vient se former dans le bâtiment. Aujourd'hui, on ne veut pas former quelqu'un qui vient d'une classe de 3e comme quelqu'un qui arrive avec Bac plus 4. Ça ne va pas du tout être le même contenu de formation, ça ne va pas être la même durée de formation. On va adapter le contenu, on va adapter tout ça. Bien, comment ? Ben, tout simplement, grâce à ce qu'on appelle la pédagogie modulaire, ben, c'est tout simplement ben, donner à manger en fonction de ce que la personne peut digérer et manger, et puis l'amener le plus loin possible. Donc là, pour ça, ben, on a des professionnels. Nos formateurs sont des professionnels de la formation et amènent les jeunes eh bien, jusqu'où ils veulent et jusqu'où ils peuvent également. Donc, plan de formation personnalisé et après, donc, signature du contrat ou de la convention. Donc, on peut aider aussi, on a un système d'aide à la recherche d'entreprise pour vous accueillir et vous former. Et la dernière chose, moi, pour moi, qui est la plus importante, c'est que lorsqu'on fait une enquête en fin d'année, alors je ne parlerai pas de pourcentage aux examens, je pense que ce n'est pas ce qui est important, de réussite ou d'échec. L'important, c'est que après une formation, lorsque le jeune arrive sur le marché du travail, c'est qu'il a un emploi. Chez nous, ceux qui sortent avec un CAP, qui passent l'examen avec ou sans CAP, c'est 87% de jeunes qui sont en emploi. Je ne connais pas beaucoup de secteurs aujourd'hui où les 16-25 ans à 87% sont en emploi. J'en connais même pas. Pour ceux qui sont formés à des niveaux 4, brevet professionnel, baccalauréat professionnel, c'est 100% des jeunes qui trouvent un emploi dans les 3 mois. Donc 100% d'insertion, 16-25 ans, c'est bien aussi. Et la nouvelle donne, et là je tiens à remercier les entreprises, nos partenaires entreprises, c'est que 75% des jeunes formés restent dans les entreprises qui les ont formés. Aujourd'hui, une entreprise ne vient pas me voir en me disant « je vais prendre un apprenti parce que mon père, mon grand-père a toujours formé des apprentis et on forme depuis des années des apprentis ». Aujourd'hui, l'entreprise qui vient me voir vient me dire « soit j'ai un candidat, l'entreprise me dit ben, « j'ai quelqu'un, je souhaite que vous le formiez pour l'intégrer dans mon entreprise ». Ou viennent me voir en me disant, ben voilà, il faudrait que trouver quelqu'un parce que là j'ai un poste qui va se libérer, ou j'ai une activité qui croît et je souhaite recruter quelqu'un. Donc ça c'est un nouveau discours. C'était pas ce discours d'il y a simplement 7-8 ans. C'est le nouveau discours. On a un changement de mentalité et ça c'est très très important. L'apprentissage aujourd'hui est vécu comme un investissement sur la personne. Alors c'est vrai qu'il y a un contre-coup à ça, c'est que l'entreprise va être beaucoup plus vigilante sur le candidat recruté. Donc voilà, j'avais 10 minutes.
Merci. Alors, donc, préparez bien vos questions pour la suite, hein, puisque vous allez avoir le loisir, évidemment, de poser toutes les questions que vous voulez. Après, donc, le dernier interlocuteur, donc l'AFPA, avec M. Benguesmia et M. Germont.
Commencer par quelques rappels déjà. Donc on est une association, on a un autre ministère de tutelle que celui de l'éducation nationale, que mes collègues, puisqu'on dépend du ministère du Travail. Et jusqu'au 31 décembre 2008, nous sommes encore une association dont la mission est d'insérer les demandeurs d'emploi par l'obtention, alors chez nous on parle de titre professionnel, de niveau 5 ou de niveau 4. Alors souvent on a la question, mais c'est quoi l'AFPA ? C'est un sous-diplôme de l'éducation nationale. C'est simplement un autre système de certification, puisque ça dépend d'un autre ministère. Donc je dis jusqu'au 31 décembre, puisque pourquoi un responsable d'affaires, vous l'avez dit, en relation avec les entreprises à l'AFPA, puisque à partir du 1er janvier 2009, nous perdons la tutelle du ministère du Travail, et surtout ses subventions. Nous passons sous le giron du conseil régional nous devons pour assurer notre pérennité nous tourner je dirais hier notre activité était à 75% tournée vers les demandeurs d'emploi, demain elle sera d'à peu près 40-50% pour les plus optimistes. Ça veut dire que aujourd'hui la moitié de notre activité est à trouver. Voilà. Donc ce qui va orienter. Alors je vois des grandes bouches s'ouvrir, je dis tant mieux, y a des gens qui apprennent quelque chose aujourd'hui. Ce qui fait que mon intervention va être un peu différente, elle sera beaucoup moins technique que mes prédécesseurs, et puis vous comprendrez que l'approche qu'on a eue du développement durable à l'AFPA était beaucoup plus tournée vers la réponse aux besoins des entreprises, ceci expliquant cela. Voilà. Donc l'AFPA Poitou-Charentes et les métiers du BTP, ces 5 sites de formation, on les voit sur la petite carte ici. Pour la Vienne, c'est Roiffet, le Vigan, Angoulême, Rochefort, Niort. 24 formations qualifiantes. Alors, on forme quasiment au même métier que mes petits camarades, le maçon avec une spécificité sur le Vigan, et je remercie Jean-Paul d'être venu ce soir, le maçon bâti ancien, pour les amateurs de vieilles pierres. On a un pôle thermique dont on parlera, et si je suis pas trop long, j'espère que Philippe pourra témoigner au titre du pôle énergie renouvelable qu'on a développé sur le centre d'Angoulême. L'aménagement finition avec, j'irai les métiers de plaquiste, carreleur et peintre que l'on connaît. Les métiers du bois à Roiffet. Nous ne faisons pas d'aluminium ni de PVC. Et l'électricité d'équipement. En 2007, nous avons accueilli 2400 stagiaires à l'AFPA que nous avons amenés à des titres professionnels. Ça représente 35% des stagiaires qu'on accueille chaque année à l'AFPA Poitou-Charentes, c'est-à-dire qu'on accueille chaque année à peu près 7000 personnes dans nos centres. La répartition, 1400 demandeurs d'emploi. Chez nous, on parle d'adultes, même si on l'évoquait avant la réunion tout à l'heure. On a un public qui se rajeunit. Alors je regarde les rangs derrière. C'est vrai que la moyenne d'âge chez nous était entre 35 et 45 ans. On avait des gens qui venaient à l'AFPA pour se former et puis aborder ou amorcer une deuxième carrière. On a de plus en plus de jeunes, soit sortis de cycle universitaire, voire même de bac général ou généraux, qui viennent vers les formations ou qui viennent compléter leur cursus par une formation professionnelle pour se spécialiser dans le secteur du BTP notamment. Donc ce qui fait apparaître chez nous des salariés en contrat de professionnalisation, qui est le pendant de l'apprentissage, où on touche une population un petit peu plus âgée, puisqu'on est plutôt sur une moyenne de 18 à 22 ans. Des salariés en congé individuel de formation, Bien sûr des salariés formés ou qui nous sont adressés par les entreprises dans le cadre des plans de formation de leur entreprise. Alors, un point où je suis, où on se rejoint sur ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, notre souci, il était que les enjeux du développement durable, en tout cas les changements que ça pouvait amener sur les métiers auxquels on préparait, toutes nos formations étaient impactées. Donc ça, c'était un premier point. On a des formateurs pour lesquels nos critères de recrutement sont d'anciens professionnels, mais d'anciens professionnels de la technique, pas forcément d'anciens professionnels au fait des énergies renouvelables, au fait de la thématique développement durable. Donc nous aussi, on a dû passer par une phase de sensibilisation et de perfectionnement de nos équipes de formateurs. Et puis surtout, de trouver la possibilité de toucher à la fois les demandeurs d'emploi, qui représentent les trois quarts de nos bénéficiaires, mais aussi les salariés, les entreprises qu'on allait accueillir. Donc on a travaillé sur deux thèmes. Le thème de la sensibilisation, c'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2008, tous les stagiaires qui rentrent à l'AFPA bénéficient d'une journée d'un module éco-citoyen et sensibilisés aux enjeux du réchauffement climatique et bien sûr du développement durable. Ensuite, pour ceux qui intègrent des formations BTP, on cible en fonction des familles professionnelles dans lesquelles ils vont exercer, toujours au stade de la sensibilisation, par l'intermédiaire de la démarche HQE, on les sensibilise aux questions du développement durable dans leur métier dans lequel ils sont en train de préparer leur titre professionnel. Donc ça, c'est la première partie sensibilisation qui a d'ailleurs concerné l'ensemble de nos formateurs qui ont participé à ce type de module. La deuxième phase est la phase de professionnalisation. Alors, pour rejoindre mon collègue du CFA, effectivement, chez nous, un titre professionnel, il est établi, bien sûr, par nos ingénieurs de formation, mais aussi par un collège de professionnels. Et on est un petit peu plus rapide parce qu'en général, on les revoit tous les 3 ou 5 ans. Mais ça reste quand même long compte tenu du sujet qui nous réunit ce soir. Et je dirais qu'aujourd'hui ce qui a pu émerger en fin de compte de cette thématique aujourd'hui, c'est pas un nouveau métier, donc c'est pas un nouveau diplôme ou un nouveau titre professionnel. C'est effectivement une évolution, et le seul qui soit formalisé, c'est celui qui est relatif aux énergies renouvelables. Voilà. Donc par la création d'un certificat de spécialisation. Qui en fait est destiné chez nous aux titulaires du titre professionnel d'installateur thermique et sanitaire. Donc on voit que c'est très très ciblé. Avec la création de cette option qui vient compléter et qui vient signifier en fin de compte l'évolution d'un métier. C'est le seul. L'autre point, c'est la création de modules de professionnalisation. Ça rejoint le contexte que j'ai évoqué en introduction, c'est-à-dire comment renforcer la professionnalisation des artisans et des salariés du secteur, et surtout comment les accompagner dans l'évolution ou la révolution que présentent ces enjeux-là. Donc on voit quelque chose d'assez large et plutôt par une approche une approche globale, mais pas par la refonte de notre système de formation, mais plutôt par l'application d'un complément en fonction des familles du secteur et en fonction du public que l'on souhaitait toucher. Alors les thèmes qu'on a retenus, parce que c'est vrai que quand on parle de développement durable, ça nécessite un peu de faire un classement. Donc nous, on en a identifié 4, et j'enlève 5 avec celui de la sensibilisation au développement durable. La démarche HQE, haute qualité environnementale, bon, qui permet l'approche globale en matière de développement durable. L'offre FIBAT, en fait, qui permet aux professionnels d'être sensibilisés, mais surtout, et ça a été évoqué tout à l'heure, comment on conseille son client, ou comment l'artisan ou le professionnel conseille son client dans le choix et dans la mise en œuvre des techniques ou des matériaux lui permettant de faire des économies d'énergie. Les énergies renouvelables, alors c'est vrai que c'est souvent les premières qui viennent à l'esprit quand on parle de cette thématique, avec les différents labels qui assurent en tout cas aux clients la qualité de la prestation rendue et surtout le respect des normes, avec les normes Calisol, Calibois, CaliPVLEC et bien d'autres. Les professionnels ont tendance à dire les Calitou. Ce CCS énergie renouvelable permet à celui qui participe de balayer l'ensemble des labels et surtout d'obtenir l'appellation sur l'ensemble de ces thématiques. Et puis enfin, la mise en œuvre des... Alors ça, c'est effectivement Angoulême que ça se passe pour l'instant chez nous. Et puis la mise en œuvre de matériaux et de méthodes de construction pour répondre aux exigences de l'éco-construction, où là, on est, c'est plus le centre du Vigan en Sud-Vienne qui est concerné par cette offre. Alors comment ça se caractérise maintenant en thème? Et là, on rentre... voilà. Ça fait peur.
On va peut-être pas détailler.
Voilà, on va pas le détailler, mais ça permet de se rendre compte. On retrouve bien les quatre familles que j'ai pu évoquer. Ici, tous les labels liés à l'utilisation de systèmes à énergie renouvelable. Ici, toute la problématique de conseils, de diagnostic et d'aide au choix en matière d'économie d'énergie. Et on voit bien que ça balaye tous les secteurs qui ont pu être évoqués précédemment. Et puis, sur les écomatériaux, alors je vais peut-être en parler parce que c'est peut-être le sujet que j'ai le moins abordé, où effectivement, on va retrouver justement l'utilisation de matériaux type monomure, voire le retour d'anciennes techniques abandonnées sur la réalisation de bâtiments en pierre ou de construction en pisé ou d'enduits de terre crue ou d'enduits à la chaux qui reviennent, je dirais, à la mode, entre guillemets. On ne va pas trouver dans cette offre, en tout cas pas en région Poitou-Charentes, les puits canadiens, un ensemble de techniques. Le souci, c'est que effectivement, on ne pouvait pas être exhaustif derrière, parce que ça nécessitait, l'ensemble de ces thèmes nécessitait un perfectionnement de nos formateurs. Et puis pour l'instant, je dirais que l'approche, cette approche, elle était aussi confuse chez les professionnels, puisque qui nous demandaient et qui l'ont demandé à tout le monde, par quel bout on pouvait prendre la chose et qu'est-ce qui allait intéresser surtout les futurs utilisateurs. Donc c'est vrai que aujourd'hui, c'est vrai que l'axe énergie renouvelable est le plus connu, l'axe isolation aussi. Et pour l'instant, on a ces deux axes-là qui ressortent le plus. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai fait 10 minutes, non, ou... Ouais. Bon. Philippe, non, bon, donc Philippe ne veut pas parler. Voilà.
Merci. Alors, c'est toujours très difficile de commencer par poser la première question. Alors, vous avez repéré les trois structures de formation qui vous ont présenté leur modalité de formation. Donc, par rapport aux économies d'énergie, je crois que c'était très intéressant ce soir parce qu'effectivement, ils ont montré qu'ils ont adapté leur enseignement par rapport aux enjeux actuels. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, je passe le micro.
Bonsoir. Donc, je me présente, donc Karim Nézard. Je dirige le réseau CSI Bâtiment à Ligugé. Donc ça regroupe trois entreprises pour Poitiers, une agence à Limoges, une agence à La Rochelle. Donc une centaine de salariés sur Ligugé aujourd'hui, à travers les métiers de l'aluminium, serrerie, les métiers du bois, avec donc Morillon en menuiserie bois, agencement, et l'entreprise de Loom en plafond plâtrerie. Je reviens de Fribourg. J'ai passé 3 jours à Fribourg. Je suis agréablement surpris d'avoir ces discussions, enfin de voir qu'on se pose ces questions-là aujourd'hui. C'est une très bonne chose et on est sur plutôt une bonne voie. Là-bas, à Fribourg, l'année prochaine, la norme de fabrication, de construction d'une maison, ça sera inférieur à 40 kWh au mètre carré à l'année. J'ai visité hier après-midi, j'ai visité des logements sociaux à 15, voilà. Bon, panneaux solaires. Bon. Alors, si je dis ça comme ça en introduction, c'est pour dire que on est.
Vous pensez que c'est un peu plus en avance là-bas que chez nous?
Oui, ils ont manifestement. Mais enfin, cela dit, faut Fribourg, c'est aussi. C'est reconnu, c'est connu, c'est vraiment une ville pilote. Bon, voilà. Il faut dire aussi que Fribourg est reconnu comme étant la ville avec le plus de panneaux solaires. Hein, c'est 1% de la consommation. Hein, donc il faut relativiser aussi les choses. Pour recentrer sur la profession, j'aurais En tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, on se retrouve face à une problématique. Par quel bout commencer? Ça, c'est une première chose. On a eu quelques réponses là-bas. Ils fonctionnent beaucoup à l'enveloppe. Déjà, ils résonnent d'abord sur l'enveloppe, d'abord sur l'isolation, bien isolée. Hein, dans un premier temps, l'enveloppe et ensuite le système énergétique, enfin de création d'énergie. Hein. Donc ça, c'est une première réponse. Aujourd'hui, au sein de nos entreprises, on a une problématique notamment, c'est l'information vis-à-vis des matériaux et de la mise en œuvre. Alors, d'une part, au niveau de la conception avec l'architecte, c'est-à-dire dans les CCTP, hein. On a bon nombre de normes qui... aujourd'hui sont difficiles à appréhender pour l'entrepreneur, je pense. Et d'autre part, on a aussi une problématique vis-à-vis des fabricants. Par exemple, en termes d'isolation, j'ai vu à Fribourg que l'isolation, par exemple, avec la fibre de bois, ne posait aucun sujet de discussion. La ouate de cellulose y compris. Ici, par exemple, quand on va parler de fibres de bois, j'ai personne en face de moi qui va me répondre, à me dire c'est du sérieux ou c'est pas du sérieux. Alors il y a aussi un petit problème de lobbying aussi au niveau des fabricants. Hein. Comment, au niveau des centres de formation, vous appréhendez-vous cette partie-là aussi, qui est une partie importante, c'est pour parler de mise en œuvre, comment appréhendez-vous la partie des matériaux? Est-ce que vous avez des relations avec des fabricants? Quelles sont aujourd'hui les lumières un petit peu concernant ces systèmes-là? Pour donner un exemple, par exemple sur le système énergétique, c'est par exemple à Fribourg, la pompe à chaleur, ils en sont un peu revenus, ils sont plus dans la cogénération. Voilà.
Alors la question d'abord peut-être aux établissements, comment est abordée la question des matériaux? Qui veut répondre? Non. Oui, alors Jean-Jacques Dussoul, donc président de la CAPEB.
Mais moi je répondrai pas pour la formation, mais je peux répondre pour le bâtiment. D'accord. Donc Jean-Jacques Dussoul, donc je suis artisan et je suis président de la CAPEB de la Vienne et du Poitou-Charentes. Donc là, je pourrais parler au nom des entreprises. Donc aujourd'hui, les entreprises, les artisans sont conscients qu'il faut raisonner sur l'enveloppe globale. Ça, c'est ancré maintenant dans nos têtes. Et nous aussi, on se forme, puisqu'on parlait de formation tout à l'heure, et on se forme notamment pour pouvoir faire des bilans thermiques, pour pouvoir annoncer aux clients ce que représente en fin de compte sa maison en déperdition, et pour pouvoir travailler sur l'enveloppe. Donc ça, on en est conscient, et aujourd'hui, on travaillera de plus en plus. Ça va être une révolution dans nos métiers, on n'a pas peur des mots, c'est vraiment une révolution. Et on va travailler par groupe, et chacun apportera un petit peu sa pièce sur l'échiquier, et on devrait avancer, je pense, très vite, et on devrait être opérationnel, et plus tôt on le sera, plus tôt ça vaudra. On va enfin travailler, si moi je suis électricien, je travaillerai peut-être pour mon collègue maçon, et mon collègue maçon travaillera peut-être pour le couvreur, mais c'est comme ça qu'il faut qu'on raisonne. Le client au bout doit être satisfait, et on ne doit pas changer une chaudière si elle n'en vaut pas le coup. Et on ne doit pas monter des pompes à chaleur à tout va. Et je suis content que Fribourg ait fait marche arrière. Je voudrais bien qu'en France, ça soit la même chose. Il y a des méthodes aujourd'hui qui sont beaucoup plus performantes que les pompes à chaleur, et arrêtons un petit peu de se glosser à grands coups de crédit d'impôt pour faire avancer la machine. Ce n'est pas ça qui va faire avancer les choses et retrouver des maisons saines et économes en énergie. J'y crois pas. Donc aujourd'hui, nous, comment on raisonne vis-à-vis des matériaux ? Eh bien, c'est simple. Il n'y a pas ici, dans cette salle, de gens que j'aurais aimé voir. Ils sont peut-être plus frileux que les banquiers, il faut le croire, mais on n'a pas d'assureurs. Tant que les assureurs ne vont pas s'asseoir autour d'une table et discuter avec la profession sur les matériaux, on n'avancera pas un pouce. Et on ne peut bien fabriquer tout ce qu'on veut en France. S'ils ne veulent pas le couvrir au niveau des décennales, eh ben l'artisan ne peut malheureusement pas le mettre en œuvre. Ou s'il le met en œuvre, c'est son entreprise qui le met en perdition. Donc c'est ça, aujourd'hui, la grosse problématique, c'est de mettre à table tous ces gens qui sont frileux. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas beaucoup, beaucoup avancer. Ça bouge un peu, pas assez à mon goût. Mais bon, il faut que des gens comme vous se mettent aussi, comme nous, à la rencontre de ces assureurs, parce que ils veulent bien assurer quand il n'y a plus de risque, mais ce n'est pas ce qu'on leur demande. On n'en a plus besoin d'eux quand il n'y a plus de risque. Donc voilà où est la problématique des artisans aujourd'hui.
Merci. Alors du côté maintenant de la formation, donc il y a également une réponse.
Oui, bah dans le cadre de la formation, nous à l'AFPA Charente, on travaille en partenariat avec des fabricants de matériaux. Nous signons des conventions de partenariat et nous avons des matériaux qui sont mis à disposition et dans le cadre du pôle éco-habitat énergie renouvelable, nous avons six studios sur lesquels nous travaillons et nous posons différents isolants en toiture, en sous-couche de dalles ou matériel de chauffage ou autre. Donc on est en permanence aussi en relation avec les professionnels qui fabriquent ces produits, ce qui nous permet de nous tenir nous à jour des derniers produits, les dernières rencontres sont juste faites là depuis début septembre. Et donc, on est en perpétuelle évolution. Et les conventions de partenariat que nous signons avec eux, il y a une obligation dans cette convention pour que les fabricants nous fournissent en permanence la documentation à jour et les avis techniques et toute la doc qui sort par rapport à leurs matériaux. Donc là-dessus, on a une veille technique sur les matériaux.
Alors, par rapport aux matériaux, nous, on travaille sur des dossiers qui sont en normes. Donc, effectivement, c'est toujours le même problème. Jamais un prescripteur, jamais un maître d'œuvre mettra des matériaux qui ne sont pas reconnus, c'est clair, parce que les entreprises, elles, ne pourront pas suivre. Je vais donner deux exemples. Un maître d'œuvre qui fait des plans de maisons bioclimatiques passives, et qui dessine un mur et puis le client met autre chose dans le mur, voire de la paille. Bon, mais ça c'est à titre marginal. Bon, autre chose, c'est la fibre de bois par exemple en enveloppe à l'extérieur d'une isolation cellulose, c'est pareil. Mais encore une fois, c'est le client qui engage sa responsabilité. Et de temps en temps, on fait des visites où on montre ce genre de chantier, mais évidemment, on ne peut pas baser la formation là-dessus. On ne peut pas. Mais on le montre, je dirais, à titre culturel, ou en espérant que ces choses-là, comme sur la paille, par exemple, il y a du travail du CSTB dessus, que certains produits soient agréés. Quoi. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Quoi. On montre, on peut.
Voilà, c'est en fait ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut y avoir une nette évolution en ce moment justement vers des matériaux qui ne sont pas forcément encore garantis. Nous-mêmes, on va travailler en partenariat avec la CIPEA qui a été citée tout à l'heure par rapport à des logements et sur des constructions à ossature bois avec de l'isolant paille. Mais là, on va travailler donc avec des artisans qui eux-mêmes sont constructeurs bois, qui ont la pratique de la paille, parce que quand même ça se fait. Et j'ai demandé qu'autour de la table, en partenariat, il y ait la présence au moins d'un assureur. Monsieur.
Bonsoir, Olivier Descroix, je dirige le service bâtiment à la ville de Poitiers. Donc c'est le maître d'ouvrage, c'est le client qui vient un peu vous parler. Alors j'ai une première réflexion, je pense un petit peu hors sujet, mais je la livre quand même, sur la formation continue. J'ai pas beaucoup entendu les deux mots l'un à la suite de l'autre, mais effectivement on n'était pas forcément sur ce thème. Néanmoins, enfin, vous l'avez abordé, Monsieur le Président. C'est bien d'avoir de nouveaux compagnons qui soient formés aux nouvelles technologies, mais il y a effectivement dans les entreprises, dans l'artisanat en particulier, qui représente beaucoup d'entreprises, un nombre de personnes à former aux nouvelles technologies. Donc là, on les attend, les anciens dont les connaissances seront actualisées et les jeunes qui arrivent sur le marché. On en a besoin tout de suite. Nous, on est face à des chantiers monumentaux, donc on a besoin de vous. Alors, vous m'avez fait très plaisir en parlant de vision globale, parce qu'effectivement, je suis convaincu que le traitement d'une réhabilitation, parce qu'on va beaucoup plus réhabiliter que construire du neuf, le traitement intelligent de l'efficacité énergétique d'un bâtiment, c'est tous en collaboration. C'est de l'énergie à dépenser pour le maître d'ouvrage, pour le maître d'œuvre, pour les entreprises, mais tous ensemble. S'il y en a un qui dérape, qui traîne, qui ne s'y connaît pas, on laissera un pont thermique, on laissera une fuite d'air. Voilà. Donc là, je voulais vous dire ma satisfaction de vous avoir entendu sur ce thème. Et bon, je reviens sur l'idée réhabilitation-construction. J'ai plus quand même entendu dans vos discours « former à construire ». J'aurais aimé entendre former à réhabiliter. Alors là, si vous pouvez m'éclairer, merci.
Qui veut répondre ? Vous voulez bien ? Bah, écoutez, si vous répondez là, c'est...
Je veux bien continuer parce que je suis
et
Robert.
Ensuite, Monsieur Dessoul.
Excusez-moi, mais je suis Robert Rochaud. Je suis l'adjoint en charge des bâtiments et de l'efficacité énergétique à la ville de Poitiers. On s'était pas fait le mot, mais bon, on est là tous les deux.
Donc vous allez faire les questions et les réponses.
Non. Je vais compléter. Mais avant, je voudrais faire quand même deux remarques, en particulier par rapport au directeur du CFA. Entendre dire que les maisons à ossature bois c'est nouveau. Moi, je suis désolé, j'habite une maison qui est à ossature bois. Elle a été construite dans les années 90 et il y en avait qui étaient construites avant. Donc que là, ça reprenne maintenant effectivement un peu plus, comment dire, d'acuité, je l'entends. Mais en même temps, si vous dites seulement à vos jeunes que c'est quelque chose de nouveau, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Deuxième chose, vous nous avez dit aussi... que les ponts thermiques, si j'ai bien compris, Weber et Boutin n'avaient pas résolu, ben oui, peut-être qu'avec ces matériaux, ça n'a pas été résolu, mais il y a sans doute des matériaux, de nouveaux matériaux qu'on peut utiliser et qui résolvent le problème. Alors, en même temps, moi, je voulais dire, comme Olivier Descroix, que nous, les maîtres d'ouvrage, donc on attend effectivement... Moi, je suis très content qu'il y ait des entrepreneurs là ce soir... et y compris des entrepreneurs qui soient allés à Fribourg, parce que j'ai eu aussi la chance d'aller à Fribourg, et quand je vois le retard qu'on a par rapport à eux, et même encore avec les orientations dont on a entendu parler ce soir là, mais ces orientations, elles sont encore très en retard par rapport à ce qui se passe à Fribourg, et donc ça veut dire que on a vraiment du chemin à faire encore. Alors moi, quand je suis allé à Fribourg, ce que j'ai retenu de ça, ce qui avait été le plus frappant pour eux dans la démarche qu'ils ont fait, parce que cette démarche ils l'ont commencé il y a 20 ans, donc la démarche, ce qu'il y avait de plus peut-être révolutionnaire d'une certaine façon, comme vous disiez, c'était le fait que d'être obligé d'apprendre à travailler ensemble. C'est-à-dire que les différents métiers du bâtiment doivent, à la limite, il faut plus dire, bah, à la limite, moi je fais mon mur, moi je fais ma double cloison, moi je passe mes câbles d'électricité, je me fous de comment l'autre va faire. Ben non, c'est le fait de travailler ensemble qui fait qu'effectivement, on arrive à l'efficacité. Donc la question que j'avais envie de poser par rapport à la formation initiale, c'était est-ce que vous mettez l'accent là-dessus ? Comment vous mettez l'accent plus exactement là-dessus ?
Je crois que c'était un peu dit. Hein, parfois,
Je ne l'ai pas. Enfin, je ne suis pas sûr alors que ce soit suffisamment mis en évidence. Deuxième chose, quid de la formation en rénovation ? Vous nous avez beaucoup parlé effectivement de formation sur la construction neuve, mais la construction neuve, on sait que de toute façon, le parc, il faut plus d'un siècle pour le renouveler. Donc, ce qui nous attend et ce qui vous attend demain, enfin ce qui nous attend tous là demain, c'est effectivement la rénovation du parc existant. Est-ce qu'il y a des choses particulières par rapport à ça ? Et puis pour compléter, pour revenir sur la question que posait Olivier Descroix. Là aussi, je crois que dans le bâtiment, la population qui travaille dans le bâtiment, elle met a priori 40 ans pour se renouveler, puisque quelqu'un qui travaille, il bosse pendant 40 ans. Donc, quid de la formation continue ? Parce que c'est aussi de ça dont on va avoir besoin.
Alors, peut-être François Ripoux d'abord.
Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est justement le souci que nous avons eu avec les diplômes, c'est que le CAP constructeur bois n'est vieux que de 3 ans. Alors que la construction bois existe depuis bien longtemps. Donc si nous attendons un nouveau référentiel sur les énergies renouvelables, etc., même sur la réhabilitation, peut-être que dans 10 ans, on dira c'est nouveau, en termes de diplôme. Et le souci que nous avons aujourd'hui sur l'évolution de ces métiers, c'est que nous avons, et c'est pour ça qu'on s'en préoccupe dès maintenant, pour être réactif, mais on ne sera pas réactif seul, il faut être réactif avec tout le monde, et travailler en partenariat. Et aujourd'hui, on est plutôt dans le flou, notamment au niveau de tout ce qui est rénovation, etc., du bâti. On sait que sur certains et sur de nombreux bâtiments, ça se fera fatalement par l'extérieur parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Mais qui aujourd'hui a en place de tels types de formations ? On est en train de travailler dessus avec les professionnels. Moi, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire qu'on est capable de vous proposer ce type de formation parce qu'il faut d'abord se former et être performant. On ne peut pas, nous... mettre à disposition des formations si on n'est pas compétent. Donc, et où va-t-on trouver ces compétences ? Pour l'instant, dans certains domaines, on se pose les questions. Hein, quand on parlait de ponts thermiques, etc., certains l'ont résolu avec d'autres matériaux, d'autres ne l'ont pas encore résolu, ils recherchent. C'est comme ça. Et on pourra, nous, travailler uniquement si on travaille en partenariat, si au niveau des organismes de formation, on se tourne vers vous, vers les professionnels, vers les fabricants, qu'on travaille ensemble pour trouver des solutions ensemble et des offres de formation ensemble. Mais on ne pourra pas aller plus vite que ça. Déjà, on est relativement réactif par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années.
D'autres réponses du côté des structures de formation ?
Oui, alors par rapport à la formation initiale, c'est vrai que les interfaces entre les entreprises, c'est essentiel, ça c'est certain. Et c'est vrai peut-être que les formations se font par métier, les artisans travaillent aussi par métier, mais ça c'est toute la coordination. Il y a des métiers spéciaux qui font la coordination entre les entreprises. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est un très très important, et ça c'est l'apprentissage des métiers, c'est la mise en œuvre. Il y a des documents, il y a des DTU, il y a les règles de l'art, et la mise en œuvre est très très importante, c'est-à-dire que les choses doivent être bien mises en œuvre. Je prends un exemple en isolation phonique ou thermique. Si on isole bien une paroi mais qu'on laisse un endroit pas isolé, même s'il est petit, tout va passer par là. Donc là, on est dans la qualité de mise en œuvre sur le chantier, et pour ça normalement, les entreprises doivent travailler dans les règles de l'art. Et puis normalement il y a des gens qui contrôlent, voilà. Donc c'est la première chose sur la mise en œuvre, l'importance de la mise en œuvre. Il ne suffit pas d'avoir des techniques, mais il faut qu'elles soient bien mises en œuvre. Et la seconde chose, c'est par rapport à l'ancien. Cette année, nous dans l'établissement, On va sensibiliser les jeunes par des visites de chantier sur l'isolation extérieure. Parce qu'entre autres, une entreprise, la Soprema, par exemple, qui fait des peintures, qui refait des peintures, des ravalements de maisons anciennes, eh bien, elle a beaucoup de chantiers en isolation extérieure. Pourquoi ? Refaire une peinture, ça coûte cher. Faire une isolation et un revêtement, ça coûte un peu plus cher, mais pas tant que ça. Et ça peut en plus avoir des crédits d'impôt ou des avantages. Donc, je suis bien d'accord qu'il y a un gros travail sur l'ancien. Et donc, nous, on essaie de sensibiliser sur ces thèmes-là, mais il n'y a pas de formation spécifique sur l'ancien. On apprend à bâtir, mais il n'y a pas de formation spécifique sur l'ancien. Le travail sur l'ancien, c'est vraiment, je dirais, les entreprises qui se spécialisent. Et encore, il faut une certaine expérience parce qu'on sait où on commence, on ne sait jamais où on va, quoi. Donc, l'ancien, c'est vraiment quelque chose de... où les entreprises doivent se spécialiser, où il doit y avoir des gens formés, mais après, c'est du travail de terrain. Mais par rapport au travail sur l'enveloppe et sur l'ancien, je crois qu'effectivement, nous, cette année, on s'oriente sur l'isolation extérieure.
Alors, Philippe Germont.
Moi, je voudrais vous répondre sur le champ de la formation continue. Tout à l'heure, dans la présentation de Calmel, il a dit que les orientations de l'AFPA pour 2009, c'était, de par notre mission de service public, 40% à peu près de notre chiffre d'affaires, et que justement, on allait développer sur le marché de la formation continue le reste de notre activité. Donc aujourd'hui, sur le champ de l'éco-construction, des énergies renouvelables, nous sommes sur le marché de la formation continue pour accompagner les salariés dans leur activité professionnelle, l'évolution de leurs compétences dans ces domaines-là. Et je tiens aussi à préciser que nous sommes sur des offres de formation on va dire modulaires, telles que les a présentées Kamel, mais nous avons aussi une spécificité, c'est que nous pouvons concevoir des formations suite à une analyse du besoin réel de l'entreprise en fonction des compétences déjà des salariés et de votre besoin sur le terrain. Donc nous avons des formations en structure qui sont toutes faites, qui répondent à des référentiels, mais nous pouvons créer aussi à la demande une ingénierie pédagogique et de formation pour répondre à un besoin bien spécifique. On mobilise nos moyens humains et nos compétences pour répondre à vos attentes.
Alors, bon, allez-y, attendez.
Et ça nous a coûté un peu cher dans nos centres. C'est qu'on a vu émerger, puis ça a été dit par Philippe, des pavillons pédagogiques dans les centres. Hein, quasiment tous les centres aujourd'hui sont dotés de pavillons pédagogiques. Les uns construits, les autres en cours, puisque c'est des chantiers qui se terminent jamais, et où effectivement on expérimente des situations réelles de chantier avec... de la coordination de chantier et je dirais qu'il y a quelques années ça n'existe pas, c'est-à-dire que chacun était dans sa paroisse. Aujourd'hui il y a dans le parcours pédagogique des chantiers qui sont organisés pour justement travailler en équipe et reproduire au plus près les situations qu'on va ensuite rencontrer. Voilà.
Alors, oui, juste un point. Vas-y. J'entends pas le mot anticipation, j'entends pas le mot projection. Ça m'interpelle. C'est-à-dire que je me suis libéré de mon temps, 2 ou 3 jours, pour partir visiter un site qui est un site pilote. Hein. C'est un laboratoire là-bas. Enfin, j'invite tout le monde à aller là-bas. C'est un laboratoire. C'est super sympa. Mais comment l'entreprise, à un moment donné, elle peut pas vous demander ce qu'elle ne voit pas. Et l'entrepreneur est tout particulièrement, on peut dire, j'ai le privilège de pouvoir me libérer 3 jours de temps pour aller là-bas. Il y a des entrepreneurs qui n'ont pas ce temps à leur disponibilité non plus pour aller à l'extérieur, pour discuter avec des architectes finlandais, allemands. Je pense que les centres de formation doivent être aussi une force de proposition. Dire... le centre de formation doit être sachant. Il ne doit pas non plus attendre uniquement la demande de l'entreprise, parce que l'entrepreneur, il n'est pas non plus... Il a aussi son métier, sa réalité du quotidien, à répondre aussi à la demande du client au quotidien. Hein.
Alors peut-être Jean-Jacques Dussault, justement, sur peut-être l'anticipation aussi par les artisans, puis la formation.
Sur la formation, si on pense sur la formation des jeunes... on ne pourra pas déroger au référentiel. Il est fait, il est fait pour être appliqué et on doit s'y plier. La formation continue, on la trouve à l'AFPA. Et M. Paluot, anciennement, voulait même qu'on fasse une maison, si vous vous souvenez bien d'un grand projet qu'il y avait. Donc on la trouve. Alors, d'anticipation, nous, on la trouve, les artisans, tout simplement auprès de nos OP, qui organisent des stages, organisations professionnelles, qui organisent des stages de formation pour mettre en œuvre des matériaux qui sont fabriqués, avec les fabricants, hein, donc ils sont là pour nous aider, les mettre en œuvre, ou avec des organisations qui font des stages bien spécifiques, bon, si je prends les Cali PV ou les Cali Sol, ou la formation, quand on ne l'a pas au plus près de chez nous, on va la chercher chez le fabricant. Et quand on veut aller de l'avant, on peut se libérer. Je veux dire. Il faut pas. Il y a encore des gens qui attendent que ça leur tombe dans le bail tout cuit. Mais non, non, si on veut aller de l'avant aujourd'hui, il faut bouger de son trottoir. Hein. Il faut aller voir l'autre bout de la rue ce qui se passe. Et je voulais juste dire aussi tout à l'heure qu'on a parlé donc des assurances qui étaient frileuses pour tel type ou tel type de matériaux. Mais quelque part, d'avoir des avis techniques du CSTB, c'est quand même très important, puisque je me souviens, moi, être monté au créneau et être parti en guerre contre ces isolants minces qu'on trouvait, on ne va pas les citer, mais dans les grandes GSB, et que tout le monde s'appliquait à dérouler chez soi, parce que on n'aime pas aller dans le bâtiment, c'est fatigant, mais c'était un des loisirs numéro un des Français pendant un temps. C'est quand même assez paradoxal. Et s'il n'y avait pas eu le CSTB, aujourd'hui, bon, on appellerait toujours ces choses-là des isolants. Or qu'aujourd'hui, il y en a qui viennent d'être agréés, et on les agrée comme complément d'isolants, et non pas isolants. Et ça, c'est quand même important qu'il y ait un avis technique qui soit donné. Mais ça ne s'empêche pas d'aller quand même un peu plus vite.
Monsieur Audebert, pour compléter.
Oui, alors ce n'est pas une réponse de technicien que je vais vous apporter, mais je voudrais vous répondre. J'étais en mai, je faisais partie d'une délégation issue d'un partenariat entre la région Aquitaine et la région Poitou-Charentes sur l'ossature bois, et je me suis rendu au Québec. Dans cette délégation, il y avait des universitaires de Bordeaux, mais il y avait aussi des chefs d'entreprise, même du Poitou. Hein. Donc, faut quand même savoir qu'il y a quand même des chefs d'entreprise qui vont s'inquiéter, vous en êtes un, qui vont s'inquiéter de savoir ce qui se passe, ce qui se fait à l'extérieur. Maintenant, dans la formation, donc j'y allais au nom du Greta Vienne, hein, j'étais pour la formation continue, et dans la formation initiale ou par apprentissage, nous organisons des déplacements pour ces jeunes. Je citerai, on en parlait tout de suite, Fribourg et Betzel. Donc on a des jeunes qui sont allés à Fribourg, Betzel aussi. Et on n'a pas à rougir, hein, de ce qui est construit chez nous. Alors là, maintenant, c'est peut-être le particulier qui va vous parler, je ne sais pas, j'en sais rien, mais je suis très intéressé par tout ce qui se passe sur le développement durable. Mais on fait des choses bien en France. Au Canada, on va faire une maison à ossature bois. On va faire un bardage en PVC, par exemple. On va mettre de l'isolation avec de la laine de verre. Nous, quelque part, quand on fait une construction bois, on fait un bardage en bois, et puis on y met des matières un petit peu plus nobles pour l'isolation. Alors voilà. Maintenant, on a un gros problème, et vous l'avez dit, c'est celui... Monsieur Dussault, je suis d'accord avec vous, il y aurait eu des assureurs là ce soir, ça aurait été gagnant-gagnant. Malheureusement, il n'y en a pas. Mais il y a une réglementation, et pour l'instant, il faut bien la suivre.
Oui, puis il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas. On a pris un tel retard en France qu'aujourd'hui... par exemple, moi, je fais un peu de photovoltaïque. Bon, pour avoir du photovoltaïque aujourd'hui, on sait que l'Allemagne consomme 57% du produit mondial. En France, on a 0,03%. Bon, peut-être 1%. Là, on a peut-être fait un bond. Et aujourd'hui, quand vous voulez faire du photovoltaïque, eh bien, il ne faut pas vous tromper quand vous en vendez un client. Hein, parce que si vous échappez un panneau, vous n'êtes pas sûr d'avoir le même. Vous en avez, quand vous pouvez en attraper, vous êtes content de les avoir. Mais surtout, n'en cassez pas un. Hein, parce que pour remettre le même, c'est une paire de manches. Hein. C'est pas disponible. On passe vraiment les derniers. Et là, on a un gros effort à faire, mais on a tellement pris de retard qu'on va avoir du mal. Hein, avoir du mal.
Donc, on comprend qu'il y a de l'avenir pour les jeunes. Je vois qu'il y a quelques jeunes ici. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir leur réaction par rapport à tout ce qui vient d'être dit. S'ils souhaitent quelque chose ou pas. Alors,
je suis pas jeune.
Est-ce que ou alors vous préparez quelque chose et puis bah, je laisse Jean-Paul Palluau prendre la parole.
Moi, je parle pas en tant que jeune. Jean-Paul Palluau, je suis membre de la SEVE, l'Association pour la cohérence environnementale en Vienne, où on travaille entre autres sur l'éco-habitat, et on est partenaire de Madès France sur l'exposition. Sur le travail autour de la rénovation du bâti ancien, je crois qu'effectivement, c'est le secteur sur lequel il va falloir faire porter l'accent, parce que c'est le secteur qui est aujourd'hui le plus consommateur d'énergie. Je crois que par rapport à ça, il me semble que le travail... Il y a un travail à faire dans deux directions, et je pense que les organismes de formation ont à faire ce travail. C'est la formation des chefs d'entreprise sur leur capacité de conseil auprès des particuliers, hein, parce que rénover un bâti ancien, on ne le fait pas n'importe comment, donc il faut savoir par quel bout on le prend. Hein, et la partie enveloppe est effectivement la principale. Il ne s'agit pas de changer la chaudière si on n'a pas fait une isolation correcte. Hein, donc la partie, le fait que l'artisan soit capable de conseiller le particulier est important. Et je crois qu'il y a aussi un travail à faire en direction des particuliers, hein, qui veulent faire rénover leur logement. Comment ils vont pouvoir aussi, eux, analyser leur logement. Et c'est un travail que la SEV est en train de faire aujourd'hui avec la CAPEB en particulier, où on va réaliser dans les mois qui viennent une plaquette, hein, pour, en direction des particuliers qui veulent faire une rénovation écologique de leur maison, hein, pour les amener à réfléchir sur l'ensemble des points sur lesquels il faut être vigilant. Hein. Mais je crois que par rapport aux professionnels, il me semble que les organismes de formation ont un travail important à faire en direction, sur toute la partie, l'analyse de l'existant, hein, et la capacité de conseil. Sur un autre point, si je peux me permettre, sur la partie autour des matériaux, je crois qu'effectivement, la grande question, bon, c'est les assureurs, mais sont aussi les avis techniques du CSTB par rapport à ces matériaux. Mais je crois qu'il faut aussi qu'on aille de l'avant. Il faut aller de l'avant. Et je crois que là, les organismes de formation, à mon avis, ont un rôle majeur. Il faut pouvoir expérimenter dans les organismes de formation ces nouveaux matériaux. On expérimente, on fait des essais, on fait des maisons témoins, on voit ce que ça donne. On fait venir les entreprises, on fait venir les particuliers. Mais je crois que là, vous avez, à mon avis, organismes de formation, vous avez un rôle important à jouer là-dessus pour expérimenter ces nouveaux matériaux et pas avoir peur d'aller sur les matériaux qui sont peut-être pas labellisés aujourd'hui, mais qui peut-être demain seront labellisés. Je crois qu'il faut aller là-dessus sans hésiter, à mon avis.
Oui, je pense que ça serait une merveilleuse idée, mais je ne pense pas que ça puisse se réaliser, puisqu'il va très vite naître un conflit entre les centres de formation et les artisans qui, si on forme nos futurs dirigeants d'entreprise, puisqu'il y en a beaucoup qui le deviendront, je l'espère, et en tout cas nos compagnons dans la vie de tous les jours, s'ils emploient des matériaux en centre de formation que nous on ne peut pas mettre en œuvre, on ne va pas faire bon ménage longtemps, ça, à mon avis. On va pas... Alors il y a un décalage qui est très difficile à prendre, et je pense que les centres de formation ne pourront pas déroger aux matériaux qui sont imposés. Enfin, je me fais un peu l'avocat des centres de formation, mais moi, je sais que demain, si mon apprenti venait en me disant « j'ai mis ça en œuvre et puis pourquoi tu ne le fais pas dans l'entreprise ?» Je lui dirais « Attends, centre de formation, il se mêle de ce qu'il regarde, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. » Je pense que je réagirais comme ça en tant que chef d'entreprise.
D'autres réactions? Les jeunes ont préparé leurs questions. Ou qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Peut-être, est-ce que vous aviez une idée de venir dans le bâtiment? Pourquoi? On peut savoir pourquoi vous êtes venu?
Merci. Bonsoir. Non, on est étudiant à l'université de... l'école d'ingénieurs de Poitiers, le ZIP. Donc la notion d'environnement, tout ça, ça nous a intéressé pour la conférence. Et oui, on est totalement étranger à ce milieu-là. Enfin, on regarde, on est curieux, oui. C'est vrai que c'est intéressant de voir la notion entre l'entrepreneur et la formation. Je n'en avais pas réellement conscience. Et pour revenir au monsieur, l'entrepreneur qui veut oser quelque chose, il n'est peut-être pas appuyé par la formation. Et donc là, c'est peut-être un frein au développement. Donc voilà.
Merci.
Merci. Moi, je veux bien témoigner et dire pourquoi je suis là. En fait, je suis en réorientation professionnelle et le bâtiment m'intéresse, en tout cas à certains niveaux. Et c'est vrai que je commence depuis très peu de temps à chercher des formations. Et ce que je vois effectivement, c'est que, bien évidemment, il faut connaître un métier du bâtiment pour entrer dans ce corps de métier-là. Mais il y a effectivement peu ou pas de formations qui sont qualifiantes dans l'éco-construction ou en tout cas dans vraiment l'utilisation de matériaux. Alors, une des réponses qui a été amenée ce soir, c'est et que je ne connaissais pas, c'est qu'effectivement il y a des problèmes d'assurance. Je suppose très certainement que les formateurs doivent connaître dans le Périgord un centre de où sont en modèle en fait différentes constructions. Je sais pas l'éco-centre du Périgord, ça s'appelle, voilà. Donc moi je suis un peu en train de me questionner par rapport à ça. Il y a beaucoup. Ce qu'on voit se développer, mais pas à titre professionnel, ce sont des chantiers participatifs en fait, où les gens vont apprendre des techniques, de la maison en paille, des toitures en chaume, des choses comme ça. Mais c'est vrai que d'un point de vue formation, alors est-ce que c'est parce que ces techniques-là ne sont pas agréées ou certifiées que l'on ne peut pas les retrouver en vrai? Alors il y a des choses qui sont très bien. Moi, je viens d'un autre milieu environnemental, donc c'est ça qui me parle. Je trouve que les formations en maçonnerie traditionnelle ou des choses comme ça, c'est très bien. Mais voilà, j'ai un peu du mal à trouver. On voit effectivement des CAP ossature bois ou construction bois. Mais du coup, je suis content d'être venu ici pour entendre les réponses, les problèmes de référentiel, les problèmes d'assurance.
Alors, peut-être que là, il peut y avoir des réactions. Oui, avant de répondre, c'est vrai que parfois, on a l'impression que quand on est plus jeune, on aimerait arriver à un niveau de qualification et assez rapidement dans le domaine qu'on aimerait bien faire. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'effectivement, il faut une base métier. Et ça existe dans le bâtiment. Ce que je voudrais dire par là, c'est qu'on ne se pose pas vraiment la question quand on veut être médecin ou qu'on veut faire d'autres professions. Et où ça demande quand même des années de formation. Et je ne dis pas forcément des années d'études, parce qu'effectivement, pour ces professions-là, il faut des années d'études. Mais vous voyez, dans le bâtiment, se pratique beaucoup l'alternance. Et ça peut démarrer du CAP jusqu'au BTS, mais jusqu'au diplôme d'ingénieur aussi. Donc en même temps, l'alternance, la formation se fait avec un temps, on va dire, scolarité dans un établissement, mais avec beaucoup de temps aussi dans l'entreprise. Et c'est vrai que... comme pour tout professionnel, on a besoin d'expérimenter quand même sur une certaine période avant d'arriver à une qualification. Enfin bon, ça, c'est peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais je veux dire aussi, on peut comparer entre différents secteurs et puis on peut s'apercevoir que le bâtiment, c'est peut-être aussi la même chose que par rapport à d'autres secteurs. Il faut du temps pour arriver à être un bon professionnel, mais ça n'empêche pas de travailler dans le bâtiment, évidemment, pour démarrer, puisqu'on peut le démarrer dès très jeune.
Oui, une petite réponse là. Moi je suis enseignant, je suis prof de dessin dans le bâtiment depuis très longtemps. Et c'est vrai que pendant de nombreuses années, j'étais dans l'associatif parce que lorsqu'on parlait d'habitat économe et d'habitat sain, bon, qui est peut-être un autre débat, c'est vrai que dans les constructions classiques, les maîtres d'ouvrage, les clients, les maîtres d'œuvre, les entreprises, les concepteurs, on en parlait relativement peu, sinon dans une certaine... chez des professionnels marginaux. Bon, je citerai le créateur de l'éco-centre du Périgord, Claude Mittmaker, qui est un architecte qui fait référence parfois plus à l'étranger qu'en France, par exemple. Mais c'est vrai que le lin, le chanvre, la laine, ces choses-là, bon, c'est des choses qu'on connaît depuis longtemps, mais des choses qui étaient faites à titre... C'était des marginaux qui faisaient ça. Bon. Donc l'éco-centre du Périgord... l'association Terre Vivante qui sort, je vous conseille d'aller sur internet, qui sort des livres sur l'isolation thermique, sur l'isolation acoustique. Ce sont des professionnels du bâtiment et eux justement ils sont certainement en avance et ils parlent de ce qui se passe à l'étranger, mais c'est le genre de discours qu'on peut peut-être pas avoir avec beaucoup de professionnels. Donc je l'ouvre ici parce qu'on m'en donne l'occasion, mais c'est vrai qu'en tant que formateur, alors la donne change. Et depuis 2-3 ans, comme en 80, on peut revenir à des choses comme ça. Bon, je me rappelle avoir fait des sujets de CAP chauffage avec des maisons avec des serres qui étaient des constructions HLM, des capteurs solaires. Mais le pétrole eh bien, a chuté après. Là, le pétrole est monté, le baril est monté à $140-150. Donc c'était reparti, il est redescendu à 70. Donc ces choses-là, moi je crois qu'il y a, une chose très importante qui fait modifier... les demandes des clients et donc le travail des professionnels, c'est le coût de l'énergie. Voilà. Et je crois qu'on est obligé de faire avec ça. Bon, après, on peut faire des choses personnelles à d'autres titres, mais on est obligé de faire avec ça. Et l'élément qui fait avancer les choses vraiment, c'est le coût de l'énergie. Je crois que ça, c'est quelque chose de très, très important.
Oui, allez-y. Je peux me permettre de compléter ce que dit M. Régis. Il y a aussi, et là je m'adresse aux chefs d'entreprise, un domaine qu'on n'a pas abordé, c'est l'industrialisation. Hein? Je reparle encore des Québécois, ils sont prêts. J'ai vu une maison emballée, moi. Donc elle est prête à arriver ici dans le Poitou-Charentes. Alors là, il faut que les chefs d'entreprise s'y préparent. Nous, on va former, on ne formera plus des charpentiers, on formera des assembleurs.
Alors, c'est déjà le cas dans plein de métiers. Oui. Alors, Jean-Jacques Dussoul et après Jean-Paul Palot.
Oui, pour répondre aux entreprises, on disait on ne trouve pas d'entreprises qui font de l'éco-construction, etc. Tout ce qui se fait un peu en prototype ou en maison, entre guillemets, marginale. S'il n'y avait pas des associations comme la Sève ou comme des lieux comme on est ce soir, on ne découvrirait pas parce que généralement, ça ne touche pas les entreprises, c'est souvent de l'auto-construction. C'est les gens qui mettent eux-mêmes, puisqu'ils n'ont trouvé personne pour leur faire, ils le font eux-mêmes. Donc on assiste à de l'auto-construction. Et s'il n'y a pas, on en a un exemple dans cette exposition, d'une maison qui se fait à Chauvigny, notamment, et c'est bien de l'auto-construction dont on parle. Et c'est vrai que vous ne trouverez pas d'entreprise qui, du fait qu'on est frileux, nous aussi, à notre tour. C'est l'hiver, tout le monde est frileux. Et on a peur, on ne veut pas se risquer à le faire. Voilà. Pour ce qui est des maisons qui partent emballées du Québec, bon, bah, c'est bien. Mais là-dedans, j'ai peur aussi qu'on perde notre savoir-faire. Quoi. Si demain, on n'a plus de menuisiers qui savent travailler un morceau de bois, c'est peut-être dommage aussi. Parce que dans la rénovation, il faudra toujours de bons menuisiers, de bons charpentiers, de bons maçons et tous les corps de métier, quoi. J'en passe.
Jean-Paul.
Oui, juste pour revenir sur la question des matériaux, et ça rejoint ce que disait Jean-Jacques Dussoul sur les entreprises un peu frileuses, je pense qu'aujourd'hui, il y a une demande forte des particuliers, enfin nous on le sait au niveau de la Sève, des particuliers qui de plus en plus veulent construire ou rénover leur maison de façon écologique, à la fois avec des matériaux. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de matériaux sains. Je crois que la question de la santé dans le logement est aussi importante. Il y a l'isolation, mais aussi la santé dans le logement. Donc c'est la demande des particuliers qui va obliger, je pense, les entreprises à évoluer et à être capables de poser ces nouveaux matériaux. Je crois que ça, c'est, à mon avis, c'est incontournable. Et si on n'a pas fait de l'expérimentation sur ces nouveaux matériaux, si on n'a pas vu comment on pouvait les poser, si les organismes de formation n'ont pas fait ce boulot-là, les entreprises vont être coincées. Je pense qu'il y a, à mon avis, un chantier important aujourd'hui. Et alors peut-être que la crise actuelle de diminution de la construction neuve peut avoir des avantages, c'est qu'il faut profiter de cette période, ou peut-être qu'il va y avoir moins de boulot dans les entreprises, pour former vos salariés à la rénovation écologique des logements. Parce qu'aujourd'hui, on est aussi au niveau de la Sève en train de faire un travail au niveau de la région sur leur pérage. Aujourd'hui, les particuliers qui veulent faire des travaux de rénovation écologique, ils ne savent pas où s'adresser. Ils savent pas où s'adresser. Donc on est en train de mettre en place un annuaire régional des entreprises compétentes sur l'éco-construction. Et cet annuaire régional, il va être fait à partir de la satisfaction des clients. C'est-à-dire que les clients, on est en train de... de réaliser une enquête là-dessus pour que les clients nous disent, le travail avait déjà été fait par la Sève en 2004-2005, on va le réactualiser au niveau de l'ensemble de la région, à partir de la satisfaction du client, de façon à être capable aujourd'hui de dire, ben moi je veux faire une rénovation et faire poser de la ouate de cellulose ou autre chose dans mon logement, à qui je m'adresse avec confiance.
Si vous voulez.
Voilà. Oui.
Alors, donc au micro, pour
mais c'est
pas bien enregistré.
Labellisé éco-artisan, j'espère. Mmh. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui on est Calisol ou Calipv ou Calibois qu'on peut être.
Non, mais éco-artisan, c'est autre chose. Donc, on va pas le développer ce soir parce que ça se met en place actuellement. Alors, je vous laisse la parole. Alors,
une question concernant le CSTB, parce que vous avez dit effectivement que la frilosité, vous avez parlé de la frilosité des assureurs, et bon, moi j'ai déjà entendu cette remarque-là lors d'une réunion un peu semblable qui n'était pas sur la formation, mais qui réunissait des maîtres d'œuvre, des architectes et la profession. La question que je me pose, moi, mais qui décide? Au niveau du CSTB, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire effectivement ce qui se passe? Parce que quand même l'impression que j'ai moi en tant que alors d'une part en tant que responsable donc politique à un moment donné et puis aussi en tant que citoyen, c'est que il y a aussi là on a aussi affaire à des lobbies sur des matériaux qui n'ont pas envie de lâcher le marché qui va pourtant leur échapper parce que ça risque d'être comme ça et puis on est victime de ça aussi semble-t-il. Et vous parliez tout à l'heure des pompes à chaleur, je crois que ben oui, en France, il se trouve qu'on a une particularité aussi, on est le premier pays nucléarisé au monde avec de l'électricité donc du coup qui est soi-disant pas cher et donc qu'on utilise à outrance alors que les Allemands ont fait un choix inverse. Donc c'est aussi pour ça qu'ils reviennent sur l'utilisation de la pompe à chaleur, tout simplement. Et bon, donc alors, est-ce que au niveau du CSTB, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à la question? Et puis en même temps et derrière, je crois que ce qu'on a besoin aussi, c'est qu'on a besoin, enfin, et donc là aussi bien en tant que maître d'ouvrage qu'en tant que particulier, on a besoin de professionnels qui font du travail de qualité. Et malheureusement, c'est pas le constat qu'on peut faire à l'heure actuelle.
Allez-y, prenez le micro.
Avant toute réponse, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut développer les initiales CSTB, parce que je ne l'ai pas entendu depuis le début.
Centre scientifique et technique du bâtiment.
Ok, d'accord, merci.
Alors, personnellement, je ne voudrais pas trop, parce que je ne saurais pas répondre maintenant, je ne m'en souviens plus par rapport au CSTB. Simplement, ce que je sais, c'est que c'est soumis quand même à des essais avant qu'il y ait un avis technique qui soit proposé, donc ça passe en commission. Alors maintenant, l'histoire des lobbies, j'entends bien, il faut voir comment c'est financé, hein, cette affaire-là. Donc, effectivement, c'est par aussi la grosse industrie, je dirais. Et cependant, dernièrement, le CSTB a mis en place une procédure plus rapide pour mettre l'accent justement sur les nouveaux produits qui sortent. Donc là, c'est, je pense, soit en expérimentation, je reçois régulièrement en fait des nouvelles. Alors ce ne sont pas des avis, mais en fait, on a des informations sur des nouveaux produits qui sortent avant d'entamer une procédure qui est donc jugée un peu longue. Oui, c'est tout ce que je peux vous dire, à moins qu'il y ait d'autres informations.
Oui, pour le CSTB, donc là, si vous voulez bien, j'enlève ma casquette CAPEP, car je ne parlerai pas au nom de la CAPEP, je parle au nom de, en tant qu'artisan et du sous Jean-Jacques électricien, cette fois-ci. Oui, on peut se demander s'il n'y a pas des lobbies, bien sûr, mais c'est la même chose de qui fait la norme C1500. Qui dicte aujourd'hui? Est-ce que c'est pas les grands constructeurs qui imposent et non pas les vrais avis techniques? Mais ça, c'est du sous Jean-Jacques que ça engage.
Oui, mais oui, pour le CSTB, bon, moi je travaille dans l'isolation et au niveau du CSTB, il y a une certification qui est la certification ASERMI. Et c'est une garantie aussi bien pour les applicateurs que pour les clients finaux. D'avoir un produit véritablement qui correspond à une analyse qui a été faite en amont, alors qu'il y a plein de produits qui sont actuellement testés sur le marché. Seulement pour les gens, c'est vraiment c'est un monde assez obscur, tout ça. Pour eux. Et d'avoir des produits qui ont une certification ACERMI, c'est une garantie, je dis bien, c'est une garantie pour les personnes qui vont utiliser ces produits-là et pour les personnes qui vont les appliquer. Et on parlait justement tout à l'heure aussi des assureurs. Ben, les assureurs, ils ont besoin, c'est normal, pour tous les produits qu'ils assurent, d'avoir des garanties quant aux produits qui sont appliqués, quant aux performances qui sont appliquées, et quant à la longévité des produits, et aussi quant à la qualité professionnelle des personnes qui vont les appliquer. Alors, par rapport au CSTB, c'est vrai que le CSTB a un rôle très important à jouer, mais eux, par exemple, quand vous avez par rapport à l'isolation, parce qu'on parle de l'isolation, vous avez une codification qui s'appelle ISOL, et ça amène tout produit, tout industriel qui fabrique et qui veut lancer sur le commerce un produit pour le domaine de l'isolation. S'il veut véritablement amener son produit à être certifié, il va demander par la force des choses à ce que celui-ci soit contrôlé 2 fois par an. Au niveau du process de fabrication, au niveau de l'efficacité du produit, et puis au niveau, bien sûr, des moyens nécessaires pour l'application de ce produit-là. Donc le CSTB a un rôle très important, et c'est là où je pense que c'est vrai qu'il y a des lobbies, mais malgré les lobbies, s'il y en a quelques-uns, c'est quand même une très très grosse garantie pour aussi bien, j'ai bien, je répète, tous les organismes qui vont avoir affaire à ce produit-là.
Alors, si je regarde l'heure, on m'a dit de ne pas dépasser une certaine heure. Là, je crois qu'on a déjà un peu dépassé, à moins qu'il y ait d'autres questions urgentes. En tout cas, je voudrais... Oui, alors, dernière intervention. Allez-y.
Vous me donnez le mot de la fin, oula, quelle responsabilité. Non, je voudrais juste qu'on se rappelle qu'on a beaucoup parlé d'efficacité énergétique aujourd'hui, mais qu'on n'oublie pas que le bâtiment est concerné par plein de chantiers. La HQE, c'est pas que l'énergie, c'est la maison saine aussi, ça a été cité aujourd'hui, merci. Et puis on a aussi un gros chantier sur l'accessibilité. Il faut qu'on mène tout ça en même temps, autant pour nous, maîtres d'ouvrage, que pour les entreprises, que pour les bureaux d'études qui ne sont pas présents aujourd'hui, enfin je les ai pas entendus. C'est beaucoup de choses à faire en même temps, mais bon. On va y aller, hein.
Oui, alors effectivement, ça fait partie de mon affin. C'est-à-dire que là, sur, par exemple, on a construit avec le pôle énergie de Parthenay une éco-maison où tous les critères de la qualité environnementale sont considérés à partir de fiches techniques qui permettent de comparer différentes structures. Donc également, on a avancé là-dessus. Alors c'est vrai que ce soir, c'était plutôt sur les évolutions des métiers par rapport aux économies d'énergie. Alors, je voudrais... Alors, vraiment, dernière intervention, Jean-Paul.
C'est juste pour annoncer une des prochaines conférences qui est organisée par la Sève et Mendes France sur la conception d'une maison passive, hein, qui aura lieu donc le 28 novembre à la salle des fêtes de Quincey.
Voilà, merci. Alors, je voudrais...
20h30.
Un micro...
Oui, il y a quand même un secteur qu'on n'a pas cité. Bon, il y a la formation. Et moi, je dis entre parenthèses, on ne pourra avancer qu'ensemble, hein, ça c'est clair. Et puis, il y a le monde universitaire qui cherche. Mm-hmm. Moi, je vais vous dire, bon, on peut faire des essais dans les établissements, les centres de formation. On va patauger un peu. Hein, mais il y a des chercheurs qui sont... et à l'Université de Bordeaux, je connais quelques-uns, qui sont prêts à nous aider pour monter une maison passive. Hein, et là, ça nous permettrait de montrer ce qui peut être fait aux entreprises. Moi, j'attends d'en faire une dans mon établissement. Ce qui me manque, c'est des sous.
Voilà. Alors, je remercie beaucoup les intervenants, hein, qui sont venus témoigner ce soir. Je remercie aussi beaucoup la salle et les questions, parce que même s'il n'y avait pas la grande foule, je trouve que c'était très riche par les questions qui étaient posées. Donc, merci à tous. Bonne soirée.